Il suffit de se plonger une seconde dans l'atmosphère d'un bureau suisse très tranquille. Une petite entreprise de commerce électronique, tout ce qu'il y a de plus typique.
Ouais, le genre d'endroit où l'équipe est super soudée en général.
C'est ça, exactement. À peine 15 employés, mais... Et c'est là que le contraste est frappant. La machinerie derrière doit gérer une base de 75 000 clients.
Ah ouais, c'est énorme pour une si petite équipe.
C'est colossal. Et l'ambiance là-bas reflète celle de n'importe quelle petite ou moyenne entreprise à travers le monde, en fait. La machine tourne, le chiffre d'affaires rentre, mais la routine quotidienne est super lourde.
Complètement. C'est souvent le cas dans le e-commerce.
Elle est rythmée par, tu sais, une accumulation silencieuse de tâches manuelles, très répétitives. Ces petits clics constants qui rongent tes heures de la journée, quoi.
Les fameuses tâches invisibles, ouais.
Voilà. Et puis, un matin, une instruction toute simple tombe dans la discussion de groupe de l'entreprise, envoyée directement par la direction.
Oh, le genre de message qui fait un peu peur, parfois.
Bah oui. Et le message dit textuellement, je cite, « Dites-nous tout ce que vous aimeriez que l'IA fasse pour vous. Sans filtre. Voyez grand. »
Waouh. C'est le genre de directive qui, la plupart du temps, se solde par un silence un peu gêné ou peut-être deux idées super timides.
C'est exactement ce qu'on pourrait penser.
Mais ici, ça a vraiment ouvert les vannes d'embarrages qui ne demandaient qu'à céder, en fait. Et c'est ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui si captivante.
Ah oui, parce qu'on ne va pas parler de technique pure.
Non, voilà, on ne parle pas de la taille des serveurs ou de la puissance de calcul ou même de l'architecture des réseaux de neurones. C'est un véritable documentaire en temps réel sur l'histoire profondément humaine qui se joue face à l'automatisation.
C'est beau, dit comme ça.
Bah, c'est le reflet brut de l'émotion, de l'espoir et, il faut bien le dire, des frustrations colossales qui sont liées au travail manuel au quotidien.
Et les résultats de cette petite expérience interne sont absolument stupéfiants. En l'espace d'une seule journée, seulement 4 membres de cette équipe, des personnes qui n'ont absolument aucune expertise technique, ont généré 53 requêtes concrètes.
53, c'est dingue.
53. Et ces demandes couvraient les besoins opérationnels de 6 départements différents. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il faut vraiment s'immerger dans la granularité de ce qu'ils ont demandé pour comprendre l'ampleur du soulagement qu'ils recherchent.
Tout à fait. Plonger dans la douleur du présent, c'est vraiment le meilleur moyen de saisir tout l'espoir qu'ils placent dans la machine.
Exactement. Prenons d'abord la directrice commerciale. Elle se décrit elle-même comme le pompier du matin.
Ah, l'expression veut tout dire.
N'est-ce pas? Tous les jours, elle passe 90 minutes, donc 1h30 de son temps, juste pour chercher quelle promotion lancer pour maintenir le navire à flot.
Et cette heure et demie, elle révèle une réalité économique assez brutale pour les petites structures.
Comment ça?
Bah, théoriquement, une promotion, ça devrait être un levier stratégique, tu vois, une exception. Mais pour elle, c'est carrément devenu une nécessité de survie quotidienne.
Ouais, c'est de l'urgence permanente.
Voilà. Et l'énergie mentale qu'elle dépense à éteindre ses petits incendies logistiques tous les matins, c'est de l'énergie qui est purement et simplement volée à la vision à long terme de l'entreprise.
C'est clair. Et quand on lui enlève ses filtres, bah, ses rêves n'ont plus aucune limite. Elle ne veut plus faire de promotion de survie. Fini. Elle imagine une intelligence artificielle capable de générer 10 000 visiteurs qualifiés par jour.
Rien que ça.
Et de réaliser 20 000 ventes quotidiennes, le tout en pilote automatique.
C'est clair.
C'est un changement de paradigme complet. Et c'est pas fini. Elle imagine un configurateur interactif où les clients pourraient passer des heures à tester des combinaisons de produits. Elle rêve de flux éducatifs automatisés pour rendre les nouveaux clients littéralement accros à la marque.
Ouais, elle repense toute l'expérience, quoi.
Mais oui, elle ajoute même la volonté de créer une armée d'influenceurs non rémunérés, des gens qui agiraient par pur amour de la marque, et un site web qui deviendrait le Wikipédia de son produit pour dominer totalement le référencement naturel.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'elle ne demande pas simplement à l'outil de faire plus d'argent. Elle déconstruit instinctivement toute la chaîne de valeur de l'acquisition client.
Ouais, elle voit grand.
Elle comprend que si la machine gère tout le volume, l'humain, lui, peut gérer la marque et l'émotion. Et le contraste avec le directeur des opérations, qui a répondu juste après, est tout aussi révélateur de cette dynamique interne.
Ah oui, lui, c'est notre ambiance.
Lui, il mène une vraie bataille silencieuse contre la friction logistique pure et dure.
Le directeur des opérations, c'est le pragmatisme absolu. Il veut des commandes fournisseurs générées automatiquement. Mais attention, avec des conditions très très strictes.
Il faut sécuriser le processus.
Voilà, il veut garder les stocks au minimum syndical, au coût le plus bas possible, et surtout en respectant la capacité financière de l'entreprise en temps réel.
C'est très pointu.
Il demande aussi des imports comptables automatiques et un nettoyage constant du site pour retirer les produits morts. En fait, c'est un peu comme une lettre Père Noël écrite par quelqu'un qui est coincé dans la paperasse depuis 10 ans.
C'est une super analogie.
Mais attends, je dois faire une petite pause ici. On parle de laisser un algorithme dépenser l'argent de l'entreprise tout seul, hein. Je veux dire, si la machine hallucine une tendance sur les réseaux sociaux et décide de commander, je sais pas, 10 000 pulls verts qui s'avèrent invendables,
Ouais, le fameux cauchemar logistique.
bah oui, c'est la faillite directe pour une structure de 15 personnes, hein.
C'est une objection hyper légitime. Et c'est précisément là qu'il faut comprendre comment ces systèmes évoluent aujourd'hui. L'idée, c'est pas du tout de donner un chèque en blanc à un algorithme prédictif.
D'accord, donc c'est plus contrôlé.
Exactement. Le directeur des opérations, il conceptualise une IA qui est connectée aux API de l'entreprise.
Les API.
Oui, ce sont ces fameuses prises de courant virtuelles qui permettent au logiciel de se parler de manière invisible. L'IA lirait le solde bancaire en temps réel, analyserait les coûts de stockage, vérifierait l'historique des ventes des 5 dernières années.
Ah, donc elle a tout le contexte.
Voilà. Et seulement ensuite, elle préparerait un banc de commande. Et le détail brillant de sa demande, c'est qu'il ajoute une condition vitale. Si l'IA a le moindre doute ou si la dépense dépasse un certain seuil, elle doit venir poser la question à l'équipe humaine sur la messagerie interne Slack avant de valider quoi que ce soit.
Ah d'accord. Donc la machine prépare tout le travail invisible, mais l'humain garde la main sur le bouton rouge.
C'est le principe du superviseur.
Il y a d'ailleurs une autre demande de ce directeur des opérations qui va exactement dans ce sens. Il veut que l'IA réponde de manière autonome aux clients qui s'inquiètent des retards de livraison, en interrogeant directement les données des transporteurs.
Hyper utile pour gagner du temps.
Et là encore, avec la consigne de demander de l'aide sur Slack si le cas est trop complexe. C'est frappant en fait, car il ne voit plus du tout l'IA comme un simple logiciel qu'on ouvre et qu'on ferme.
Non, c'est devenu autre chose.
C'est véritablement comme un collègue de bureau junior qui l'on délègue la pression matinale.
Exactement. Il s'agit d'une restructuration complète des flux de travail. Les opérations et les ventes, elles, cherchent avant tout à sortir la tête de l'eau. Mais si la logistique cherche à survivre, les départements du CRM, la gestion de la relation client, et du marketing, eux, ils veulent passer à l'attaque.
C'est clair que l'objectif de leur requête change du tout au tout. C'est très très clair dans les messages du responsable CRM. Lui, il est dans une logique d'offensive ciblée.
Il veut conquérir.
Voilà, il ne veut plus attendre que le client vienne. Il demande une liste quotidienne générée chaque matin de prospects à haut potentiel. Il veut connaître leur capacité d'achat, leur rythme habituel, les produits précis qui les intéressent, et, pour citer ses mots exacts, puis en attaque.
Ah oui, c'est très martial comme vocabulaire.
Très martial. Il exige aussi un système de triage des tickets de service client qui soit extrêmement chirurgical.
Genre, quel type de triage?
Par exemple, une réponse directe et autonome de l'IA pour un simple échange de taille, mais une assignation immédiate au service après-vente humain pour un problème de qualité.
C'est très intelligent, ça.
Et une escalade prioritaire vers un vendeur pour aider à conclure un achat à fort potentiel qui hésite dans son panier.
Et le responsable marketing pour la région DACS, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse-Allemagne, eh ben, il déploie exactement la même stratégie d'expansion sans friction.
Qu'est-ce qu'il a demandé, lui?
Il demande d'abord l'automatisation de la corvée ultime, le remplissage des tableaux Excel avec les abonnés à la newsletter et les revenus quotidiens.
Ah oui, la base.
Mais très vite, il passe à la vitesse supérieure. Il veut que l'IA cartographie des influenceurs, géolocalisés spécifiquement autour de leur boutique physique.
Ah, c'est malin.
Qu'elle identifie des salons professionnels pertinents, qu'elle trouve des contacts dans des grands magasins pour y installer des pop-up stores, et qu'elle fasse croître leur audience sur Instagram en allemand avec de vrais utilisateurs actifs.
Bon, il y a quand même une contradiction apparente là-dedans qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes.
Laquelle?
Le responsable CRM affirme haut et fort que sa volonté absolue, c'est de libérer le personnel de la routine pour qu'il puisse se concentrer sur le contact humain à haute valeur ajoutée.
Oui, c'est une belle philosophie de gestion.
C'est très beau, mais dans la même liste, genre quelques lignes plus bas, il demande un bot téléphonique IA pour gérer absolument tous les appels entrants des clients.
Ah.
N'est-ce pas totalement paradoxal? Je veux dire, comment on peut confier la voix de l'entreprise, le téléphone, l'outil d'empathie par excellence, à un robot tout en prétendant vouloir remettre l'humain au centre?
Ouais, c'est le paradoxe central de l'adoption de l'IA dans les petites entreprises. Mais en réalité, c'est une question de mécanique opérationnelle. La vérité d'un service client de PME, c'est que 80% des appels sont ce qu'on appelle du bruit.
Du bruit, hein? C'est-à-dire?
Ce sont des questions purement logistiques, genre où est mon colis, ou le livreur n'a pas trouvé la porte, ou encore avez-vous cette pointure en rouge?
Ah ouais, les trucs très basiques.
Exactement. Et répondre à ces questions de manière répétitive, 40 fois par jour, ça draine littéralement l'énergie humaine. L'empathie d'un employé, elle n'est pas infinie.
C'est sûr qu'à la 40e fois, t'as moins le sourire.
Voilà. Si le bot téléphonique, qui lui a accès aux bases de données en une fraction de seconde, gère parfaitement ce bruit logistique avec une voix naturelle, le personnel humain conserve toute sa patience et son énergie intellectuelle pour les 20% de cas vraiment complexes.
Les cas où il faut vraiment une personne.
Comme une erreur de facturation grave, un client fidèle très mécontent ou un conseil sur mesure. L'automatisation devient en fait le bouclier qui protège l'énergie humaine.
On automatise la logistique pour sanctuariser l'empathie. C'est une mécanique implacable. Et honnêtement, l'expérience aurait très bien pu s'arrêter là. 39 requêtes formulées le matin, c'est déjà une feuille de route technologique suffisante pour occuper une équipe de développeurs pendant 5 ans.
Oh oui, largement.
Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le barrage mental avait cédé. Seulement 6 heures plus tard, lors d'une session l'après-midi, 14 nouvelles requêtes sont apparues spontanément dans la discussion.
Il ne s'arrêtait plus.
Il ne pouvait plus éteindre la machine à idées.
C'est le phénomène clinique du déblocage cognitif, ça. Depuis des années, ces employés pensent leurs idées à travers le prisme de la contrainte technique et financière.
Le fameux « on peut pas faire ça, ça coûte trop cher ».
Exactement, ça prendrait 3 mois à coder et j'en passe. Une fois qu'ils réalisent que la contrainte d'exécution disparaît, l'imagination s'emballe et l'ambition change totalement d'échelle.
L'escalade des attentes est d'ailleurs fascinante à observer dans les logs. La directrice commerciale, qui le matin même cherchait juste à automatiser ses petites promotions, elle revient à la charge l'après-midi.
Avec de plus grandes idées.
Cette fois, elle demande carrément une refonte totale du site web à un niveau professionnel géré dynamiquement par l'IA. Elle veut des politiques de prix qui s'ajustent toutes seules par catégorie.
Bah oui, le dynamic pricing, c'est complexe ça.
Elle imagine la publication de nouveaux produits avec une optimisation parfaite pour les moteurs de recherche, générés instantanément en 3 langues.
Rien que ça.
Et elle demande des montages photos et vidéos automatisés pour adapter chaque visuel aux contraintes des différentes places de marché. Et elle va même jusqu'à exiger la création de thèmes d'engagement récurrents pour fidéliser les clients en utilisant des déclencheurs comme la météo locale ou même leur horoscope.
C'est hyper créatif. Mais la vision prédictive que propose le responsable CRM l'après-midi, elle va encore plus loin dans la complexité technique.
Qu'est-ce qu'il a imaginé?
Il demande à l'IA de lui fournir des alertes en temps réel sur les tendances publicitaires. L'idée, c'est que si une publicité commence soudainement à capter l'attention sur un réseau social, l'IA ne se contente pas de le signaler.
Elle fait quoi d'autre?
Elle doit analyser pourquoi cette image fonctionne et recommander d'y injecter plus de budget immédiatement. Il veut aussi une cartographie visuelle complète du parcours client qui identifierait chaque seconde de friction sur le site.
Il a même théorisé ce concept assez incroyable de garde-robe de la marque.
Ah oui, ce passage est génial.
C'est l'idée de créer un tableau de bord hyper personnalisé pour chaque client. L'IA analyserait l'historique des achats, les retours liés aux problèmes de taille, les préférences de couleur, pour générer une page unique par visiteur.
Du vrai sur-mesure à grande échelle.
Exactement. La machine proposerait d'elle-même des idées cadeaux stylisées, avec des messages du type « Noël approche », « Cette écharpe irait parfaitement avec le manteau acheté l'an dernier », tout en gérant les points de fidélité.
Et pendant ce temps, le marketing Dash insiste pour que l'IA gère des campagnes WhatsApp entières, en français et en allemand, non pas comme de simples envois massifs, mais comme de véritables conversations interactives pour bâtir une communauté.
Mais attends, comment une IA passe-t-elle de la simple lecture de données à la prédiction d'un produit à succès? Ce n'est quand même pas de la magie, si?
Non, il n'y a aucune magie là-dedans. Ce n'est que de la reconnaissance de modèles, mais à une échelle surhumaine. L'IA croise les matières les plus cliquées, les couleurs qui restent le moins longtemps en stock et les comportements d'abandon de panier.
Elle voit ce que nous, on ne peut pas voir en un coup d'œil.
Exactement. Elle repère des corrélations invisibles à l'œil nu. Et c'est justement ce qui rend la réaction finale de la directrice commerciale si importante. En regardant cette liste, achevée de 53 demandes, elle a simplement écrit dans le groupe « C'est incroyable, une nouvelle ère ».
Une nouvelle ère, ouais.
Ce moment précis illustre un basculement psychologique fondamental. En quelques heures, ils ont cessé de voir l'intelligence artificielle comme un logiciel fastidieux qu'il faut apprendre à maîtriser.
Ils l'ont vu comment ?
Ils ont commencé à l'apercevoir comme une infrastructure, une fondation invisible capable de matérialiser la réflexion stratégique.
Ce qui soulève inévitablement une question évidente. si cette petite équipe suisse a été capable de concevoir une feuille de route numérique aussi claire, aussi visionnaire en l'espace d'une seule journée, et sans aucune formation technique, pourquoi l'économie entière n'est-elle pas déjà transformée?
C'est la question à un million.
Bah oui, pourquoi chaque petite entreprise dans le monde ne fait-elle pas exactement la même chose en ce moment même? C'est là que la belle anecdote se heurte violemment au mur de la réalité macroéconomique.
Et les données macroéconomiques viennent jeter un froid polaire sur cet enthousiasme, crois-moi. L'OCDE a publié des projections très claires pour 2025 et elles montrent un gouffre absolu.
À quel point?
À l'échelle globale, la proportion d'entreprises utilisant réellement l'intelligence artificielle peine à dépasser les 20%. Le chiffre exact est de 20,2%.
20% seulement?
Oui, certes, c'est une accélération fulgurante par rapport aux années précédentes, mais cela reste une infime minorité.
Ce n'est donc pas une révolution généralisée, c'est une révolution très fragmentée en fait.
Exactement. Et le véritable problème, particulièrement marqué en Europe, c'est la fracture gigantesque selon la taille de l'entreprise.
Les grandes contre les petites.
Voilà. Les grandes entreprises ont déjà sauté le pas massivement, plus de 55% d'entre elles l'utilisent, mais l'immense majorité des petites entreprises restent bloquées sur le quai, avec à peine 17% d'adoption.
Un écart de 38 points.
C'est ça. Et parmi ce petit groupe de PME qui s'y essayent, même pas un tiers, environ 29%, parvient à l'intégrer au cœur de son modèle d'affaires.
C'est là que le cas de la Suisse devient un paradoxe super fascinant. Globalement, le pays affiche un taux d'adoption assez impressionnant de 46%.
C'est un bon chiffre.
Et 44% des PME suisses déclarent utiliser ces outils. Mais quand on regarde sous le capot, on découvre que moins de 20%, 19% exactement, s'en servent pour réellement innover.
Ah oui, la nuance est de taille.
L'écrasante majorité l'utilise comme une simple machine à écrire glorifiée, tu sais, pour corriger des textes, traduire des documents ou rédiger des emails polis. On est très loin de l'agent autonome qui gère la logistique et les budgets publicitaires.
C'est clair.
Et l'excuse qui revient en boucle dans les enquêtes pour justifier cette timidité, près de 58% des entreprises blâment le manque de compétences de leurs employés.
Et pourtant, l'histoire de notre équipe suisse prouve exactement le contraire. Les employés ont les idées. Ce chiffre sur le manque de compétences cache en réalité la vraie nature de la transition technologique actuelle.
C'est-à-dire ?
Les projections industrielles indiquent que 2026 sera l'année charnière où les entreprises devront impérativement passer du stade de copilote au stade d'agent autonome.
Il faut bien comprendre la différence.
Oui, un copilote, c'est comme un correcteur orthographique très sophistiqué. Il attend patiemment que l'humain tape sur le clavier pour suggérer une amélioration.
Il est passif.
Voilà. Un agent autonome, en revanche, c'est comme un stagiaire à qui on donne les clés du bureau, une carte de crédit d'entreprise plafonnée et l'accès au mot de passe.
Ah ouais, la totale.
Il constate qu'un produit manque en stock, contacte le fournisseur, négocie les délais et met à jour le site web pendant que le reste de l'équipe dort. C'est un saut conceptuel massif qui terrifie beaucoup de structures.
Mais d'où vient ce blocage au juste ? Parce que, comme on l'a vu, les cerveaux des employés sont prêts à imaginer des solutions et la technologie, elle, est largement mature pour les exécuter.
La réponse se trouve dans ce que les analystes appellent la crise de préparation.
Ok.
Et le vrai goulot d'étranglement n'est pas l'employé de bureau moyen. Plus de la moitié des dirigeants d'entreprise, 51% très exactement, avouent tout simplement ne pas comprendre comment fonctionne l'IA ni comment l'adapter concrètement à leurs besoins spécifiques.
Ah, le problème vient d'en haut.
Exactement. La situation est tellement critique que les pays du G7 ont dû élaborer un plan d'adoption spécifique pour les PME prévu pour 2025. Et même de grands acteurs technologiques, comme OpenAI, ont lancé des programmes d'accélération d'urgence pour tenter de former 20 000 PME européennes.
C'est dingue.
C'est le nœud du problème. La barrière n'est absolument plus technologique. Les modèles existent, la puissance de calcul est disponible, les interfaces sont prêtes. La barrière est purement liée à l'accompagnement et à l'architecture. C'est la paralysie face à l'inconnu.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ?
Ça signifie que le blocage est structurel et humain. Les dirigeants sont paralysés par la complexité perçue du changement, alors que leurs propres équipes sur le terrain savent pertinemment où se trouvent les frictions quotidiennes.
À condition qu'on leur donne l'espace mental pour y réfléchir, oui. Exactement.
Et le coût d'opportunité de cette paralysie devient vertigineux quand on observe les retours des petites entreprises qui réussissent cette intégration. Les statistiques de l'impact post-adoption ne laissent aucune place au doute.
Quels sont les chiffres ?
En moyenne, les employés récupèrent près de 5,6 heures de temps par semaine. Et pour les postes de direction, cela dépasse les 7,2 heures hebdomadaires.
C'est quasiment une journée de travail entière sauvée du gouffre des tâches répétitives.
C'est fou. Près de 88% des entreprises signalent une hausse directe de leurs revenus et 97% observent une réduction nette de leurs coûts d'exploitation.
C'est massif!
Mais le chiffre le plus révélateur de tous, c'est que 53% de ces entreprises affirment que le véritable impact majeur n'est pas financier, c'est l'explosion de la productivité et du bien-être des employés, qui ne sont plus traités comme des robots administratifs.
Ce qui nous ramène inévitablement à l'idée maîtresse, la véritable leçon de cette exploration. Le monde de la technologie s'emballe quotidiennement avec des annonces de nouveaux modèles linguistiques toujours plus performants.
Toujours plus puissants, oui.
Capables de réussir des examens de droit ou de médecine. Mais le monde de l'économie réelle, l'économie des PME, n'a pas besoin d'un nouveau modèle d'IA plus intelligent. Il a désespérément besoin de ponts.
De traducteurs, en quelque sorte.
Exactement. Il a besoin de personnes, d'architectes, capables de prendre les souffrances opérationnelles quotidiennes des entreprises, comme ces fameuses listes de 53 requêtes, et de les transformer en solutions techniques viables. La question que chaque conseil d'administration devrait se poser aujourd'hui n'est plus de savoir s'il faut adopter l'IA. Ce débat appartient au passé.
Totalement.
La véritable question stratégique est « Qui va nous aider à transformer ces 53 requêtes en réalité IA ?»
C'est une inversion totale du paradigme. Pendant des décennies, la technologie était la partie complexe et comprendre le problème humain était la partie simple.
Ouais, la donne a changé.
Aujourd'hui, la technologie est devenue la commodité la plus accessible. C'est l'identification précise du besoin humain et la restructuration des processus de travail qui requièrent le plus haut niveau d'attention. Cette petite équipe suisse a magistralement démontré que des cerveaux sans aucun bagage en ingénierie pouvaient parfaitement cartographier l'avenir numérique de leur industrie.
À la seule condition qu'on leur pose la bonne question au bon moment.
Et avec la bonne intention.
Et cela amène une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice, pour clôturer cette analyse, en poussant cette logique jusqu'à son terme ultime. Si l'intelligence artificielle finit bel et bien par exécuter parfaitement la chaîne logistique, si elle optimise les ventes et si elle absorbe le service client sans la moindre friction comme le souhaite cette équipe.
Ce qui va arriver.
Imaginez un monde où le seul avantage concurrentiel d'une entreprise ne sera plus la qualité de son produit ou son efficacité, puisque tout le monde aura accès aux mêmes agents autonomes. Non, le seul avantage stratégique qui subsistera, ce sera uniquement l'audace et l'imagination humaine de ses employés pour formuler la bonne requête à la machine.
C'est une perspective vertigineuse.
Et si, demain, savoir rêver devenait la compétence la plus rentable sur le marché du travail? Une question fondamentale à garder en tête face à une boîte de réception pleine à craquer la prochaine fois que la routine quotidienne semblera insurmontable. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'IA et à très bientôt pour continuer à décortiquer ce qui façonne demain.